بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة السنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا دنيانا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. فنوند الله tüm misericordia ve tüm misericordia loyalce Allah dünya dediğimize loyalce Allah pour le bienfait de l'Islam et loyalce Allah pour le bienfait de la Sunna, que la paix et le salut soient sur le sceau de ses prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères dans la foi, avant de commencer le thème de cet appui, j'aimerais rappeler un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, afin qu'on ressente ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous et qu'on se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait. La vérité, c'est que nous, qui nous sommes retrouvés ici en ce moment, faisons partie de ceux qu'Allah a choisis. Parmi ceux qu'il a choisi. Faisons partie de ceux qu'Allah a choisi, parmi ceux qu'Allah a choisi. Parce que le simple fait qu'une personne soit musulman, adopte l'islam comme étant la religion, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, yani, le fait qu'on fasse partie de ceux-là qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bienfait. Et le fait qu'à l'intérieur de l'islam, qu'on fasse partie de ceux qui suivent la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont adopté comme la voie à suivre, c'est encore un autre bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui ont accepté l'islam qui suivaient la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ceux qu'il a choisi. Et le simple fait qu'on fasse partie de ceux des musulmans qui suivent la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui aiment la science et cherchent à être éclairés, et c'est un autre bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons donc partie de cette troisième catégorie de personnes. Parce que ce n'est pas tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les musulmans qui font partie des gens de la sunna qui aiment la science et cherchent à être éclairés. Parce que c'est ça le troisième choix. Nous faisons partie de ce groupe sélectionné, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous faisons partie de ceux-là qui aiment la science et qui sont sortis pour acquérir la science. C'est encore un autre bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas tous ceux qui aiment la science, qui veulent être éclairés, qui ont emprunté le chemin de la science. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: من سلك طريقا. لا بد من سلوك الطريق حتى تنال هذا الأجر. يفك شيء أم أنت لشأن ولا رشاش ولا فيان طوب من تسيب سميري. Faut pas seulement que tu aimes la fiance, faut pas seulement que tu sois musulman, il faut pas seulement que tu sois sunni pour bénéficier de ce mérite. Il faut qu'en plus du fait que tu sois musulman sunni, tu empruntes le chemin de, et en plus du fait que tu aimes la fiance, que tu empruntes le chemin de la fiance. Dans ça, la caparée, quand quiconque emprunte le chemin de la recherche de la fiance, sahhal Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, par cet emprunt du chemin lui facilite l'accès au paradis. Ya ikhwa ta'ammalu fi hadha al-hadith. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que qui acquiert la science, celui qui emprunte le chemin de la science et qui acquiert la science. C'est le simple fait que tu empruntes le chemin de la science avec une bonne intention. Parce que al-ilm, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'accorde à qui il veut. Mais quand tu fais déjà l'effort d'emprunter le chemin de la recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite par cette empreinte du chemin, même si tu n'accèdes pas à la science, l'accès au paradis. Et c'est pour ça que si on avait compris, on ne devrait pas faire des péchés. En réalité, ne sont pas des excuses, des excuses. Pour pouvoir ne pas assister aux assises de science. Et ainsi, il est suffisant comme mérite. Le hadith d'Abi Umamah al-Bahili radiallahu anhu, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Man rada ila al-masjid. لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم. قال ما قال من غدا إلى المسجد وتعلم خيرا أو علم خيرا. قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم. Quiconque emprunte le chemin de la science, le chemin de la mosquée, n'ayant pour seule intention que d'apprendre un bien ou de l'enseigner, il n'a pas dit quiconque emprunte le chemin de la science apprend. Non. Il faut seulement emprunter le chemin et avoir une bonne intention. Parce qu'en réalité, la conséquence dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que nous devons de faire, ce sont les causes. Et c'est à partir de la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise les conséquences. Et c'est à partir de la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense. من رجع إلى المسجد يكون كأمتنك لشمين دي لمسكين يام بسل أنت عشان كده فرندو أن دي أودي لانسيني الله سبحانه وتعالى دي أكورد لا ريكومبانس دي سيديشيا فاتو سنتو دي ريناس. هذا يكفي سو مريد السيكيزان pour quiconque a un cœur prête oreille et en est témoin, pour quiconque a pitié de son âme, de sa propre personne, qui assis au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et essaie d'échapper au feu de l'enfer. Ya ikhwa, il faut que nous prenions conscience. C'est important. Et j'insiste là-dessus. Parce que le simple fait qu'on veut une chose, qu'on prétend une chose, ne fait pas de nous ceux qui ont emprunté ce chemin. Ne fait pas de nous ceux qui ont emprunté ce chemin. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la vérité, c'est que nous avons accepté la sunna. Mais nous n'avons pas encore adopté. Et si on rentre dans les détails, en réalité, on va se rendre compte que la majorité de ceux qui disent être des gens de la sunna, en réalité, le nom qu'on devrait lui donner, ce sont les sympathisants de la sunna et ceux qui ont accepté la sunna. Parce que pour faire partie de quelque chose, yani, pour faire partie d'une chose, il faut qu'on soit dans cette chose et qu'on ait adopté cette chose-là. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith dit par exemple, al-muslimu, man salim al-muslimuna, من لسانه ويده Les musulmans, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa, des mots, de sa langue et de la nuisance de ses mains. Voilà le vrai musulman. C'est celui qui pratique l'islam. Le vrai musulman, c'est celui qui pratique l'islam. C'est pareil, le vrai sunni, c'est celui qui est passé à l'étape de la pratique, qui pratique la sunna. Il ne faut pas seulement accepter la sunna pour espérer échapper au feu de l'enfer, pour espérer au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset farraqa bayna iradat al-akhirah wa suluk tariq al-akhirah. Dans un verset, Allah est clair et explicite. M'indiquant la différence entre avoir, vouloir le paradis et emprunter le chemin qui mène au paradis. La majorité de ceux qui se revendiquent être de la sunna, être des musulmans, veulent le paradis, mais n'ont pas encore emprunté le chemin qui mène au paradis. Or, même dans notre propre vie, il y a des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala en nous. J'ai souvent pris l'exemple pour dire que celui qui veut être ministre, déjà qui ne veut pas être ministre, la majorité des Camerounais veulent être des ministres. Mais combien de Camerounais sont ceux qui ont emprunté le chemin qui permet d'être ministre? Même dans la religion, c'est comme ça. Combien sont ceux qui veulent le paradis? Mais qui sont ceux qui ont emprunté le chemin qui mène au paradis? Ya Akhi, combien parmi les enfants, nos enfants, veulent aller en vacances à Douala? Mais est-ce qu'ils sont déjà à Douala parce qu'ils veulent aller en vacances à Douala? Est-ce qu'ils sont déjà en route, ils ont déjà emprunté la route qui mène vers Douala parce qu'ils veulent aller en vacances à Douala? Ils ne peuvent pas se retrouver à Douala jusqu'à ce qu'ils rencontrent la route qui mène vers Douala. C'est ça la réalité. Pourquoi dans notre vie quotidienne, on comprend ces règles claires? Et on ne l'applique pas dans la chose la plus importante. Alors qu'en réalité, tout ce qui nous entoure sont des signes nous permettant de bien comprendre la religion, de comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre la voie menant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi en fait comme Allah subhanahu wa ta'ala, il y a en vous des signes. Et nous lisons ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous allons leur montrer des signes à travers la création et en leur propre personne. Tous ces signes-là sont là pour nous permettre de comprendre ce que c'est que ce monde, de comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et de comprendre les injonctions divines. Donc Allah a dit, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَالْإِرَادَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Quiconque veut l'au-delà, c'est-à-dire assis au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et emprunte le chemin menant au paradis. Il ne suffit pas seulement de vouloir le paradis, d'aspirer au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut après cette aspiration, se vouloir emprunter le chemin qui mène au paradis. Ya Ikhwa, la grande majorité de ceux qui se revendiquent être de la sunna veulent amasser des connaissances dans leur religion. Ils veulent adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Mais ce vouloir rester utopie jusqu'à ce qu'il matérialise ce souvent à travers l'empreinte de la recherche, la voie qui mène à la recherche de la science. Et c'était pour nous rappeler Sudran bin Allah subhanahu wa ta'ala qui nous qui nous sommes retrouvés ici. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que nous dépassons tous ceux qui ne sont pas venus que nous sommes retrouvés ici. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis. Et nous devons de nous montrer reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait. Wallahi, il se peut que dans une assise de science, tu entends un mot qui sera la cause de son accès au paradis. Et il se peut que qu'une personne manque à cette assise de science et n'entend plus jamais ce mot. Nous devons de reconnaître ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ikhtarana Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqana jami'an lakinnahu ikhtarana hatta nakuna fi hadha al-masjid linatafaqqaha fi dinihi. Allah subhanahu wa ta'ala crée ce qu'il veut et choisit. Allah nous a créés tous. Et nous a choisi parmi ceux qui l'a créé, afin que nous nous retrouvons dans cette assise de science et que nous envoyons mutuellement dans la piété, dans la bonté. Qu'Allah nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettre en pratique. Summa, comme vous le savez tous, nous sortons du mois de mai de Ramadan. Un mois au cours duquel le diable était enchaîné, le réveil parmi le diable était enchaîné. Où le niveau de foi de tout un chacun était au top. Où les musulmans étaient déversés dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'on pouvait voir des musulmans engagés dans la lecture du Coran, la méditation des propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la mise en pratique des injonctions du livre d'Allah. Il y en avait qui multipliaient les actes d'adoration, qui prenaient soin des pauvres, qui ont pensé aux orphelins. Bref, les dieux d'intelligence parmi les croyants n'ont ménagé aucun effort leur permettant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit pendant le mois de midi Ramadan. Il ne fait aucun doute qu'en réalité notre vie sur terre représente un marché. Et dans ce marché, nous exerçons tous un commerce. Ça peut être le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on fait le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sort jamais perdant. Et c'est ce commerce qui nous rachète auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous permet d'échapper au feu de l'enfer et d'accéder au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a attiré l'attention sur ce point dans le Coran. Dans Sourate Al-Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. يرجون التجارة لن تبور فنحن في التجارة مع الله. Ceux qui récitent les livres d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public ce que nous leur avons attribué, et c'est ainsi c'est un commerce qui ne périra jamais. Donc, nous sommes des commerçants. Mais seulement, c'est à chacun de choisir avec qui exercer le commerce. Et ceux qui l'exercent avec Allah subhanahu wa ta'ala font un commerce qui ne périra jamais. Ça, ça fait partie des enseignements que nous pouvons tirer dans ce verset. Et dans Sourate As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Oh, vous qui avez cru, vous indiquerez un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Donc le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous sauver d'un châtiment douloureux, d'échapper à l'enfer et d'accéder au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, notre vie sur terre représente un marché. Et dans ce marché, chaque commerçant choisit celui avec qui échanger, faire le commerce. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on choisit, alors ce sera un commerce qui ne périra jamais. Et si c'est un autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera un commerce dans lequel on en sortira perdant. C'est pour ça que dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la perte. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ceux-là sont des perdants. On parle de khasara quand il y a une perte dans un commerce. Et quand on médite sur l'organisation de ce monde, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a organisé ce monde, on se rend compte que c'est exactement ce que nous étions en train de dire. Que le monde en réalité représente un marché. Et vous savez que dans un commerce, il y a des périodes de pleine activité. Dans chaque commerce, il y a ce qu'on appelle des périodes de pleine activité. C'est comme ça le monde. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a organisé le monde. C'est pour ça que dans la vie du croyant, il y a des périodes de pleine activité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que lors des périodes de pleine activité, le commerçant fait tout pour amasser des bénéfices autant que possible. C'est pour ça qu'à l'avance, il se prépare et met tous les moyens nécessaires en jeu pour amasser le maximum des gains possibles, des bénéfices possibles. Mais après ce temps de pleine activité, il y a lieu de faire un bilan. Parce que celui qui ne fait pas de bilan risque de détruire son commerce, de perdre son bénéfice, voire même son capital. C'est pour ça que les commerçants chevronnés, à la fin de chaque période de pleine activité, font le bilan. Parce que c'est le bilan qui permet de déterminer ce qu'on a amassé comme bénéfice, qui permet de réaliser si on a toujours le capital et si en plus du que ce capital, on a réussi à amasser des bénéfices. Et c'est à partir de ce bilan qu'il continue le commerce. Même quand ce n'est plus la période de son activité. Parce qu'un commerçant qui arrête le commerce n'est plus un commerçant. Un commerçant qui arrête le commerce n'est plus un commerçant. Vous pouvez vous renseigner auprès des commerçants. C'est comme ça. C'est comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a choisi Allah subhanahu wa ta'ala, qui échange avec Allah subhanahu wa ta'ala, exerce le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, s'il arrête, c'est que c'est un problème. C'est pour ça que certains de ses prédécesseurs disaient, « Kounou rabbaniyin, وَلَا تَكُونُوا رَمَضَانِيِّينَ. Soyez plutôt des serviteurs du Seigneur et non des adorateurs de Ramadan. C'est comme si on disait, soyez plutôt des vrais commerçants et non des personnes qui veulent juste profiter en temps de pleine nativité. Parce que si vous vous comportez de cette manière, c'est que qu'avant la prochaine saison, vous n'ayez plus de capital. Et si avant la prochaine saison, on n'a plus de capital, il se peut qu'on soit incapable de dresser le commerce. Parce qu'on n'a plus de capital. Ceci pour dire que, chers frères, l'heure est au bilan. Après le Ramadan, il faut se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit ce mois? Allah était explicite, c'est pour un but bien déterminé. Est-ce que nous avons atteint cet objectif? Et si nous l'avons atteint, comment est-ce que nous nous devons de nous comporter après avoir atteint l'objectif? Et si nous ne l'avons pas atteint, comment faire pour pallier à ce problème? Parce que si nous n'avons pas atteint l'objectif, c'est un problème. Donc l'air au bilan, il faut qu'on se pose ces vraies questions pour pouvoir échapper au réseau du diable. Et j'ai toujours dit quelque chose. Wallahi alladhi la ilaha ghayru. Ce n'est pas adorer Allah qui est difficile. Adorer Allah, c'est facile. Ce n'est pas jeûner le mois de Ramadan comme une pauvre qui est difficile. Quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'est très facile même pour celui qui ne déploie aucun effort. Non. C'est pour dire que ce n'est pas déployer ses efforts pour adorer Allah comme il se doit qui est plus difficile. Savez-vous ce qui est plus difficile? Hein, Allah? Savez-vous ce qui est plus difficile? Non. Ce qui est plus difficile, c'est de préserver le Ramadan qu'Allah nous a accordé et de mourir avec ce Ramadan. Voilà qui est plus difficile. Parce qu'alhamdulillah, Allah nous a accordé longévité. Nous avons vécu pendant tout ce mois de l'année de Ramadan. Nous avons déployé les efforts que nous avons déployés. Mais, maintenant que le Ramadan est parti, wallahi, ce qui est difficile, c'est rencontrer Allah avec ce Ramadan. Ayant préservé ce Ramadan. Ayant conservé ce Ramadan. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux pèlerins que, à la fin du pèlerinage, que c'est maintenant que le plus difficile va commencer sur la préservation du Hajj. Maintenant que vous avez accompli le Hajj et que vous l'avez terminé, wallah, c'est en ce moment que le plus difficile commence, préserver le Hajj. Parce que le diable, il est là. Et son rôle, c'est détruire le Hajj. Ce à quoi il a dit, c'est vous détruire avant la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pareil pour le Ramadan. Maintenant que le diable est détaché, les rebelles sont détachés et relâchés, alors qu'ils étaient attachés, et vous avez pu amasser ce gain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez-vous qu'ils vont rester tranquilles et vous laisser aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tous ces mérites? Ils vont tout faire pour les détruire. Et c'est pour ça que celui qui n'est pas en contact permanent avec le rappel, qui ne cherche pas à se renseigner dans sa religion, pourra gêner plusieurs ramadans, mais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir le ramadan, même un seul. C'est pour ça que nous avons dit que le plus difficile, c'est conserver le ramadan. jikalau engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Il se peut qu'un homme fasse des œuvres des gens du paradis et qu'à la fin le livre le rattrape et qu'il fasse des œuvres des gens de l'enfer et il ne les en enfer. J'ai acquis ce temps à l'abri de cette réalité. Si c'est plus qu'une personne jeune fasse le hajj, concrétise la tawhid et qu'à la fin il se retrouve en enfer. Donc, quand on comprend ce genre de texte et qu'on y nous dit, on comprend l'importance de faire le bilan après chaque saison de pleine activité. On comprend l'importance de la connaissance des voies et moyens permettant de conserver nos actes d'adoration. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été clair. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Parce que c'est la seule façon de mourir. C'est la seule façon de mourir qui permet d'être à l'abri de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'accéder au paradis. Quand on est meurt en pleine soumission, on est des dofites, on a des problèmes. Et on est dans les problèmes. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. En fait, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire. Nous avons l'obligation de ne mourir qu'en pleine soumission. Et si on ne meurt pas en pleine soumission, automatiquement, on est déjà dans les problèmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc, c'est pour dire que même si Ramadan est une période de pleine activité, même si c'est un temps où les diables rebelles sont souvent enchaînés, le temps qui vient après, c'est aussi un temps d'adoration. Parce que c'est lui que nous adorions pendant le mois de nuit de Ramadan. C'est lui qui est le Seigneur de Ramadan et le Seigneur de tous les autres mois. C'est lui que nous adorions pendant tout le mois. Pendant le mois de nuit de Ramadan, c'est lui que nous devons adorer en dehors du mois de Ramadan. قال الله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que moi t'en suis. Al-yakin ou al-mawt. La certitude. La mort. Donc, il ne faudrait pas qu'on te voile les yeux et qu'on soit un soutien et qu'on te dise Alhamdulillah, nous avons pu jeûner le mois béni de Ramadan et qu'on plonge dans la paresse. Il faut qu'on continue et qu'on évite tous les actes qui peuvent nous empêcher de bénéficier de notre Ramadan auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on évite tous les actes qui détruisent les actes d'adoration. Et n'oubliez pas qu'à la fin du mois de Ramadan, qui est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un acte d'adoration obligatoire qui peut nous permettre de préserver notre Ramadan. C'est quoi cet acte d'adoration? Non? Hein? Le tawhid? Mara yuflera. Si vous avez bien compris la question, il y a une réponse dans la question. J'ai dit que le mois de Ramadan, en réalité, constitue un bienfait d'Allah. Le fait que nous ayons vécu pendant le mois béni de Ramadan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la possibilité, la force de gérer, de déployer les efforts que nous avons déployés, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, il y a un acte d'adoration obligatoire qui pourra nous permettre de conserver ce mois béni de Ramadan. La reconnaissance, à choukour. Et méditer bien sûr la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, chahou Ramadan, al-dali, unzila fihi al-Qur'an, hudan lil-nasi wa bayyinati, min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum al-shahra falyasum, wa man kana maridan wa ala safarin, fa'iddatin min ayyamin ukhra. Yuridu Allah bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Limadha? Wa litukmilu al-iddata. Na'am? وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dans la traditeur approchée des respects versés, Allah subhanahu wa ta'ala dit: le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque en est malade ou en voyage, alors qu'il gêne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre que vous, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissant. Faman shakara Allah kama yambari. Celui qui se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, à la fin du mois béni de Ramadan est celui-là qui conservera son Ramadan. Limada, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui se montre reconnaissant de l'augmenter à bienfait. Qala Allah ta'ala, wa idh ta'azzana rabbuka la in shakartum la azidannakum. Et rappelle-toi, lorsque ton Seigneur proclama, si vous vous montrez reconnaissant, je vous demanderai un bienfait. Donc si on se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le grand bienfait qui est le mois béni de Ramadan, Allah nous augmentera un bienfait. C'est pour ça que nous devons de reconnaître ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nous montrer reconnaissant envers Allah pour ce grand bienfait. Mais, la vraie question maintenant, c'est comment se montrer reconnaissant envers Allah vis-à-vis de ce grand bienfait. Le premier pilier de la reconnaissance, comme nous l'avons étudié ici, c'est quoi? Al-Iqtiraf bi-ni'ma batinan, c'est reconnaître le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala intérieurement. Et ce qui implique cette reconnaissance, c'est quoi? Non? Quand tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé un bienfait et que ce bienfait émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que cela implique automatiquement? Non? Oui, ça c'est ce que veut dire la reconnaissance. Maintenant, quelle est l'implication directe que cela implique? Puisque tu vois quelque chose comme étant un bienfait, c'est pérenniser, c'est conserver cette chose. C'est faire ce que tu peux pour maintenir ce bienfait. Et c'est pour ça qu'Allah va t'augmenter en bienfait. Parce que si tu ne reconnais pas ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vas faire aucun effort pour conserver ce bienfait d'Allah. Pourquoi, comment est-ce qu'Allah va t'augmenter en bienfait alors que tu n'as pas reconnu ton bienfait? Tu n'as rien fait pour conserver ce qu'il t'a accordé. Non. C'est que ce premier pilier qui est la reconnaissance intérieure, que ce soit un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala implique automatiquement, c'est faire tout ce qu'on peut pour conserver ce grand bienfait. Et c'est en méditant tout ce qui peut détruire ce grand bienfait. Et la première chose à éviter, comme vous le savez, c'est quoi? Ashirku billah. donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer une autre divinité avec Allah, une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais être bref sur ce premier point parce que nous avons déjà eu à l'être plusieurs fois. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك Il t'a été révélé comme il a été révélé à ceux qui sont passés avant toi que si tu donnes un associé à Allah, tes œuvres seront vaines. Subhanallah. Méditez bien sur le verset. Allah n'a pas dit Allah rendra tes œuvres vaines. Les savants disent parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà donné l'ordre aux œuvres d'adoration que s'ils répandent le shirk, s'ils ont l'odeur du shirk, qu'ils se détruisent. Qu'elles se détruisent. Les œuvres n'ont plus besoin, lorsque l'on commet le shirk, de l'autorisation d'Allah pour se détruire. Donc, la première chose que nous devons éviter, et c'est absolument que le shirk. Mais ici, il y a un point important que les gens ont souvent l'habitude de négliger. Il faut éviter le kufr, il faut éviter le shirk, la mécréance. L'association, parce que l'association fait partie de la mécréance. Il ne faut pas seulement éviter le shirk, il faut éviter toutes les formes de mécréance. Parce que la mécréance aussi rend vain les actes d'adoration. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا à cause de la mécréance. Allah fera des œuvres de ceux qui ont mécru des poussières. Qu'Allah nous en préserve. Et quel est le point important auquel les gens ne font pas souvent attention? ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ نعم مدير. لا أنا ما أتكلم عن أركان الإيمان. أنا أتكلم عن الإيمان، عن حد الإيمان. نعم. نعم. أحسن. نعم هذا هو حد الإيمان عند أهل السنة. هو اعتقاد بالقلب. وقول باللسان وعمل بالجوارح لا فوا dans son essence c'est la conception de credo sur la parole c'est également l'acte elle est composée de ces trois choses généralement les gens ne comprennent pas pourquoi les gens de la sunna insistent sur ce point quel est le contraire de la iman Al-Kufr, c'est la mécréance. Ça veut dire que la mécréance, non, peut être avec le cœur. On peut sortir de l'islam sans prononcer un seul mot et sans poser un seul acte. Vous comprenez l'importance et la profondeur de cet enseignement. Pourquoi est-ce que les gens de la Sunna insistent à l'imam et à l'imam? C'est que tu comprends que tu peux sortir de l'islam sans prononcer un seul mot. Sans avoir un comportement quelconque, rien qu'avec ton cœur, tu te retrouves hors de l'islam. Quand tu as une conception erronée, qui relève de la mécréance, tu es déjà sorti de l'islam, même si tu ne l'as pas prononcé de ta langue. Ça veut également dire que on peut sortir de l'islam avec un mot, un seul mot. Parce qu'on a dit que la foi est composée des œuvres du cœur, du dogme, de la croyance, mais également des paroles, de la parole. Ça veut dire que la mécréance aussi peut être une parole. On peut dire une parole sans même croire à cette parole et se retrouver dans l'islam. C'est pour ça que c'est important de comprendre ces bases. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بكلمة تأملوا لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم 70 خريفا ne se peut qu'un homme parle, dise une parole, sans accorder le moindre importance. Vous avez compris? Sans accorder le moindre importance à cette parole. C'est-à-dire que ça peut être une parole qu'il ne croit même pas. Il dit une chose qu'il ne conçoit même pas avec le cœur. Mais la conséquence de cette parole peut être dévastatrice. يهوي بها في جهنم 70 خريفا يعني 70 سنه et qu'à cause de cette parole ils sont propulsés dans les feux de l'enfer pour une distance de 70 ans à cause d'une parole. Ça veut dire que la mécréance peut également être un acte de mécréance. Donc nous devons éviter la mécréance sur toutes ses formes pour celui qui se montre, qui veut se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait. Parce que la mécréance déchire dans les actes, déchire en elle les actes. Et le mécréant ne peut pas bénéficier des mérites de ses actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se maintenir dans la foi. Il faut se maintenir dans l'islam. Il faut éviter la mécréance. Ça, c'est la première chose à éviter. La deuxième chose qui permet de conserver les actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la préservation de la langue. وتأملوا في حديث معاذ مجيسيب ينسل حديث معاذ رضي الله عنه لنشير لقصة محمد صلى الله عليه وسلم أتيني دين ذكر ذاتك إلواني جفر دلانفر إيكي برمت دكتجو أو باراديس لا لقصة أعطيني لذاتك إبامين تذاتك لجن إيا لجن كي أتي سكي إنو لابون نو بنون دي جيني إنو لابون تيني دموا بني دي رمضان فتك نو سوم أنترين دي فالي دي كمان كونسيرفي le Ramadan. À la fin du hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'ad, « Afala adulluka ala milal kidalika kulli » Ne vais-je pas t'orienter vers la chose qui va te permettre de conserver milal, qui va te permettre de conserver tous tes actes après l'avoir accompli. C'est pour ça que nous avons dit que ce n'est pas accompli l'acte qui est difficile, mais c'est conserver l'acte qui est plus difficile. Et c'est pour ça que regardez, même Mu'adh, il a compris cela. Parce que quand le prophète sallam a enseigné les actes d'adoration, il n'a posé aucune question. Il n'a pas dit, mais est-ce qu'il est impossible de faire tous ces actes-là? Parce que c'est possible et c'est même facile. Mais regardez ce qui lui a posé problème. C'est comment conserver ces actes-là. Parce qu'il a compris que ce n'était pas facile. Il a compris que faire ces actes-là, réaliser tous les actes enseignés par le prophète Mohammed sallam, ces actes permettant d'échapper au feu de l'enfer et d'accéder au paradis, est possible, est facile. À celui à qui Allah a facilité. Mais la chose qui est extrêmement difficile, c'est conserver ces actes-là. C'est pour ça que lorsque le prophète sallam a attiré son attention, ne devait pas s'orienter vers la chose qui va te permettre de conserver ces actes. Il a dit pas là, ya Rasulallah. Si notre prophète indique-moi cette chose, il a dit, Amsis alayhi shahada, le prophète a sorti sa langue et l'a tenu pendant en lui disant, attrape celle-ci. Attrape celle-ci, canalise-la. Ne la libère qu'en fonction. Ou alors, qu'en respectant la consigne donnée par le Créateur de ce membre. Et moi, je suis étonné en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Aïna la mu'akhazoun, bima se tekallamu bihi al-sinatuna, nous, le prophète, est-ce que ça veut dire que nous serons châtiés pour ce que dit nos langues? Pour ce que dit nos langues? Qala taqulaka ummuk. » Regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de changer directement avec Mu'adh. Et lorsque Mu'adh a posé cette question, il a ramené une expression qui permet Dieu d'attirer l'attention de son interlocuteur et de le garder concentré. Alors qu'il était déjà en train d'échanger avec lui. Alors que lorsqu'un compagnon parle avec le prophète Mohammed, il est toujours concentré, mais c'était pour l'importance de l'enseignement qui vient après. Parce que le prophète voulait qu'il comprenne bien. Yani, pour qu'on comprenne bien, c'est comme si, pendant que tu es en train d'échanger avec quelqu'un, tu lui dis, oh, écoute-moi. Alors que tu es déjà en train de parler avec lui, alors que c'est toi qui es en train d'écouter, quand tu fais ça, c'est quand tu veux qu'il comprenne ce que tu es en train de vouloir lui dire. Donc, ce qui indique l'importance de ce hadith. Le prophète lui a dit, est-ce que les gens seront jetés en enfer si c'est le prix de leur langue? Quand le prophète a attiré son attention, il lui a dit, est-ce que les gens seront alors jetés en enfer si c'est leur de la conséquence de leur langue? Donc, la deuxième chose auquel nous devons nous attacher et qui nous permettra de conserver nos actes d'adoration et plus particulièrement notre Ramadan, c'est la préservation de la langue. Et subhanallah, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est indéfinissable. Et regardez les liaisons qui existent entre les versets. Dans le verset du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum al-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum » Il vous a été prescrit de jeûner le mois béni de Ramadan comme il a été prescrit à ceux qui sont passés avant vous afin que vous atteigniez la piété. Il faut atteindre la piété pour pouvoir réaliser certaines choses. Pour que ces actes soient valides auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les actes d'adoration soient acceptés auprès d'Allah. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Certes, Allah n'agrée que des pieux. Nous devons de tout faire pour atteindre la piété. Méditez sur ces versets et le verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ici, Allah a interpellé les mêmes personnes qu'il a interpellées lorsqu'il a confié les jeunes. Ceux qui sont censés, ces derniers sont censés être des clients. Yani, ceux qui ont jeûné le mois béni de Ramadan, à la fin, ils sont censés être des clients. Maintenant, revenons au... Allah a prescrit le jeûne à qui? Aux croyants. Afin qu'ils atteignent la piété. Et dans ce verset, Allah interpelle ceux qui ont cru. Allah interpelle ceux qui ont cru et leur demande de craindre Allah. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ceux qui sont sortis du mois béni de Ramadan comme il se doit, sont des craignants. Et s'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que cela implique? وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et dites la parole de droiture. C'est que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala implique automatiquement. C'est dire la parole de droiture, c'est-à-dire c'est conserver sa langue. Parce que c'est lui qui conserve sa langue, c'est lui qui dit la parole de droiture. Et regardez le rapport entre ce verset et le verset du mois béni de Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa la'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants. Et dans le verset de la reconnaissance, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous vous montrez reconnaissant envers Allah, il vous augmentera en bienfait. Maintenant, revenons à ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. C'est quoi la conséquence? يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie pour vous vos œuvres. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Et vous pardonne vos péchés. Y a-t-il un bien qui est au-dessus de ce bien? C'est qu'Allah purifie tes actes et l'accepte et te pardonne tes péchés. Quelle est l'augmentation que tu veux en dehors de cette augmentation? Mais si tu vises vraiment cette augmentation, alors tu te dois de te mettre dans la posture de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce mérite-là. Tu dois conserver ta langue. Et ce n'est pas facile. Mais méditons également sur le bien qui se trouve dans la conservation de la langue. Yaha, c'est celui qui conserve sa langue, c'est celui qui ne parle que sur les choses qui le concernent. Parce qu'en réalité, et j'ai toujours cité cet exemple, quand on met une chose à la partie n'est pas la sienne, ça crée un dysfonctionnement général. Parce qu'à la base, chaque chose a sa place. Ça veut dire que, généralement, et c'est ce qui implique automatiquement le fait que tu t'intéresses à ce qui ne te concerne pas. Wallahi, quand tu t'intéresses à ce qui ne te regarde pas, tu finis par délaisser ce qui te concerne et ce qui te regarde. Et tu seras châtié deux fois. Tu seras châtié pour être intéressé à ce qui ne te concerne pas et pour avoir laissé ce qui te concerne. C'est ça la vérité. Hier, prenons un exemple simple. Combien de ceux qui prétendent revendiquer ce qui en réalité ne les concerne même pas délaissent ce qui les concerne. Vous avez des gens qui ont des orphelins dans la famille, dans leur famille, qui sont même proches d'eux, qui ne bénéficient pas de leurs droits. Personne ne se lève pour revendiquer les droits de ces orphelins qui sont ses proches. Celui sera interrogé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses orphelins. Parce qu'il avait la possibilité, par exemple, de rétablir leurs droits, de revendiquer leurs droits. Vous trouverez des personnes qui ont des cas comme ça qui délaissent et s'intéressent aux cas qui ne les concernent pas et se lèvent pour revendiquer des droits qui ne sont même pas leurs droits. Ça existe partout. Vous avez des personnes qui parlent aussi des choses qui ne les concernent pas. Alors qu'en réalité, quand l'homme médite sur sa propre personne, il se rend compte que, wallahi, pour parler d'une affaire qui ne concerne pas, pour parler d'une affaire qui ne le concerne pas, il faut être un homme suffisant. Parce que les affaires qui nous concernent sont indémontables. Et nous n'avons pas rencontré toutes ces affaires. Il y a combien de personnes se soucient de leur relation avec le Seigneur? Qui sont ceux qui s'assurent comme ça là et que leur sort devant Allah subhanahu wa ta'ala? Médite sur leurs actions, se pose les vraies questions, et si je mourrais maintenant, quel sera mon sort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment réparer cela? Voilà ce qui nous concerne nous tous. Qui sont ceux qui s'intéressent à l'objectif de notre création? Qui se disent, est-ce que j'ai toujours adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Est-ce que j'ai toujours vécu pour ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé? Est-ce que j'utilise toujours ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé comme il se doit? Est-ce que j'ai toujours recherché la dernière demeure à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé? Voilà autant de questions que si l'on se pose, wallahi, on n'aura pas le temps de s'intéresser aux affaires qui ne nous concernent pas. Voilà pour l'Inch'Allah, nous nous devons de préserver nos langues, si nous voulons conserver notre Ramadan. Et subhanallah, dans le hadith du Mouflis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons, atadrouna man al-muflis? Al-muflis, c'est celui qui a fait faillite. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Celui qui a fait faillite. En bas, on dit, tibou, amonye, guna. Mais je ne sais pas s'il y a un terme en français pour qualifier une personne qui se retrouve dans cette. Dans cette situation. Voilà pour les choses. Nous avions dit ici qu'en réalité le monde était un marché, un champ de commerce. Vous voyez, c'est pour ça que Allah et le Prophète, ils ont utilisé ce terme, donc ils étaient ce, le terme faillite. Parce que c'est lui qui fait faillite dans un commerce, c'est lui qui à la base a réussi à amasser des bénéfices, mais qui, à la fin, n'a profité de ces bénéfices et a se retrouvé sans capital. C'est en plus du fait qu'il avait des bénéfices, et en plus du fait qu'il n'a pas profité de ces bénéfices, il s'est retrouvé sans capital. C'est celui-là qui a fait faillite. Parce que celui qui réussit à conserver le capital, au moins, peut se relever. Mais quand on n'a plus de capital, on est mort. Donc, c'est pour ça que, dans le hadith, le prophète a interrogé le compagnon. Savez-vous qui est celui qui a fait faillite? Le compagnon dit, mais c'est celui qui, à la base, a beaucoup d'argent et après, n'a plus rien. Chacun a donné et a mis sa définition en fonction de ce qu'il comprenait de ce terme. Le prophète sallam leur a dit, un muslim, man ya'ti yawm al-qiyama, al-salah, al-zakah, al-sawm. C'est celui-là qui viendra le jour de la résurrection, ayant accompli la prière, ayant s'acquitté de la zakat, ayant gêné et allé croire comme il se doit, mais seulement qui n'avait pas fait attention à ce que nous avons dit ici au départ, que le plus important, c'est pas adorer Allah, que le plus difficile, c'est pas adorer Allah, mais c'est conserver ses actes d'adoration jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui a gêné, qui a prié, qui s'est acquitté de la zakat, mais qui n'a pas conservé tous ses actes. Quand le Rasoul sallam ya'ati wa qad kadhaba hadha wa shatama hadha wa akhadha mal hadha. Celui-là qui viendra, ayant calomnié un tel, conforté les paroles entre un tel et un tel, voilà le mouflis, à cause de sa langue. C'est sa langue qui a détruit ses actes, qui l'a empêché de bénéficier des actes accomplis par lui-même. Qu'Allah nous facilite. La préservation de la langue n'est pas une chose facile. Wallahi, ce n'est pas une chose facile, surtout en ce moment. Oui, il est facile. Il s'est retrouvé dans une chambre, tout seul, et ignorer le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un enregistrement. Non, en pensant que personne ne saura qui est derrière cet enregistrement, c'est en ignorant le regard d'Allah. Wallah, le simple fait que cette personne et ignorer le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grave que l'acte fraudulent. Le simple fait qu'il s'est caché du regard des hommes, tout en ignorant le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est la mécréance. Que l'on nous en préserve. Donc nous devons de préserver nos langues pour conserver nos actes d'adoration. Que l'on nous facilite. Et on ne peut conserver cette langue que si on met en pratique l'enseignement prophétique, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Regardez comment le prophète lit l'accès à la foi. Quiconque croit en Allah et au jour du jugement dernier, falyakul khayran. Qu'il dise la bonne parole, ou qu'il se taise. Hadha huwa al-wajib ala al-mu'min. Ya akhi, que tu dises la bonne parole. Si tu ne peux pas dire la bonne parole, là c'est quelqu'un de la mienne, ya akhi. Ya akhi, même si cela, mais comment il n'a pas permis à quelqu'un de dire une parole, na'am, qui implique des excuses plus tard. Islamiquement, il n'est pas permis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك أن تتكلم بكلام تعتذر به. Quand quelqu'un dit des propos qui impliquera que c'est quelque chose plus tard. Le musulman n'est pas celui-là qui ne réfléchit pas. Ya akhi, Allah karama bani Adam. Allah nous a honoré et nous a accordé une raison. C'est pas pour rien, nous ne sommes pas comme des animaux. Ya akhi, c'est l'animal qui agit spontanément. C'est l'animal qui agit spontanément. Mais l'homme agit sur la base de la raison. Médite sur ses propos, sur les implications de sa parole, sur les conséquences que sa parole peut engendrer. Hadha huwa al-mu'min.
voilà le croyant. Donc on ne peut préserver sa langue que si on met en pratique cette injonction divine. Et c'est pour ça que je l'ai déjà rappelé plusieurs fois, dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit وقولوا قولا صادقا. Il n'a pas dit dites la vérité. Il a dit parce que ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Et ce n'est pas toute vérité qui est droite. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que c'est que Al-Qawlu Sadid, le bien indiqué par le Prophète dans le Hadith. C'est une parole qui repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est que cette parole soit dite par celui qui devrait le dire, ou alors celui qui devrait la dire. Parce que si tu n'es pas concerné par une chose, si tu ne dois pas te parler de cette chose, mais je crois que l'islam est marié, tel que vous m'en avez à dire. C'est partie de la bonne religiosité d'une personne le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. S'il ne parle même pas de ça, Yahri, ça fait partie de sa bonne religiosité. Ça veut dire que si une personne parle de ce qui ne le concerne pas, même s'il dit la vérité, sa parole n'est pas cause, ça dit. Parce que c'est partie de sa bonne religion, de fait qu'il passionne de ce qui ne le regarde pas. Yahri, parce que si ça ne te regarde pas, tu ne seras pas interrogé par Allah. Mais à partir du moment où tu prononces un seul mot, tu seras interrogé. Donc, il ne suffit pas qu'une parole soit vérifiée pour qu'elle soit une bonne parole. Je prends un exemple banal. Tu peux dire à quelqu'un que ta grossesse, alors qu'en réalité la personne a une grossesse, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une bonne parole? Il ne suffit pas qu'une parole soit vérifiée pour être bonne. Il faut que la personne soit, il faut que la parole soit dite par celui qui devrait la dire. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le temps et le lieu. Ça veut dire que la parole du musulman doit être circonstancielle du temps et du lieu. Elle doit s'accorder avec le temps et le lieu. Il faut que celui qui dise la parole, qu'il soit celui qui devrait la dire, et le dit au moment opportun. S'il y a quelque chose que je dis qui n'est pas clair, demandez le dalil. Faut pas seulement, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Par exemple, ça, vous pouvez demander le dalil. Faut pas seulement qu'on passe comme ça là. Parce que vous pouvez dire ça quelque part, on vous demande le dalil. C'est quoi le dalil? C'est une parole. Naam, s'il n'est pas dit au moment opportun, n'est pas cause de sa vie, et par conséquent, c'est lui qui le dit, même si c'est une parole vraie, à la place de péché, de récompense, plutôt bénéficier des péchés, ou alors récolter des péchés. Je prends un exemple, un hadith. Hadith de Mu'ad, ou de Jabir. Atadri ma haqqullahi ala l'ibad, wa ma haqqu l'ibad ala Allah. Mu'ad, hein? À la fin du hadith, écoutez bien, Mu'adh dit, Ya Rasulallah, afala ubashiru an-nas, qala la. Qala la, fayattakilu. La tughirhum. À la fin du hadith, le prophète a dit une parole à Mu'adh. Ça veut dire que Mu'adh est concerné par la parole. Et Mu'adh fait partie des compagnons qui ont été formés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre. Donc ça veut dire que ce que le prophète lui dit, c'est aussi pour qu'il transmette. Mais il doit le faire au moment opportun. C'est pour ça qu'il dit au prophète, oh noble prophète, ne me donnes-tu pas l'autorisation d'aller donner la bonne nouvelle aux gens? Il a dit non, je ne donne pas cette bonne nouvelle. Pourquoi? À cause des implications. Non? De cette action. Parce que si Mu'adh avait informé les gens, qu'est-ce que le prophète a dit? Ça y a fait qu'il ouvre. Les gens allaient abandonner les gens. Et ça devait avoir une conséquence négative. Pourtant, c'est une bonne parole, c'est une bonne nouvelle. Donc, quand tu parles,
tu dois méditer sur les conséquences de ça. Ton réussite, ce n'est pas seulement que la parole soit vérité. Et ce n'est pas seulement que tu sois la personne apte à prononcer cette parole. Il faut également que tu médites. Billahi alaykoum ya ikhwa. Ne voyez-vous pas qu'il n'y a aucune religion qui est belle comme celle de l'islam, qui anobie une personne comme celle de l'islam? Méditez sur une personne qui met en pratique ses enseignements. Comment cette personne peut être noble? Comment cette personne peut être utile dans une société? C'est pour ça que, en réalité, il n'y a pas plus belle religion que celle de l'islam. Il n'y a pas une solution fiable comme l'islam pour résoudre les problèmes du monde entier, pour résoudre les problèmes des musulmans. C'est pour ça que j'ai toujours dit à certains frères que l'islam n'a aucun problème, parce que quand on voit les musulmans aujourd'hui, on pense que l'islam a un problème. L'islam n'a aucun problème. Le véritable problème, c'est que ceux qui disent être des musulmans ont accepté l'islam, mais ont refusé d'adopter l'islam. Ont refusé de pratiquer l'islam, même s'ils ne le refusent pas verbalement et clairement. Mais leurs actes, c'est un refus. C'est ça la vérité. Et ça fait mal, mais c'est la vérité. Et imaginez-vous une personne qui met en pratique ses enseignements. Comment cette personne peut être utile à sa société? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir révélé le Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous les avons envoyés en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. Et après, celui qui suit le sens du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit selon l'éthique islamique, ne peut être qu'une miséricorde partout où il se trouve, ne peut engendrer que le bien, ne peut fermer que les portes du mal et ouvrir les portes du bien. Mais tu ne seras comme ça que lorsque tu suivras les pas du prophète sallam régulièrement. Parce que le prophète Mohammed sallam kana khuluquhu al-Qur'an. Parce que son comportement, c'était la révélation, là, comme tu entends là, c'est que je suis en train de dire là, c'était comme ça, c'était pas le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait que quand il fallait qu'il parle, il ne disait que la bonne parole. C'est même pour ça que quelqu'un m'a agressé. Il n'a rien dit. Parce qu'en ce moment, islamiquement, il ne lui revenait pas de parler. Il est resté tranquille. Omar s'est levé et a riposté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on n'avait pas besoin de ce que j'ai fait. Ce n'est pas de ça qu'on avait besoin. Et il a dit: laisse-le parler. Quelqu'un qui revendique son droit à la parole. Écoutez, il dit: laisse-le parler. Quelqu'un qui revendique son droit à la parole. Alors que la personne n'avait pas respecté le pacte qui existait entre lui et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui lui avait donné une lettre, mais c'était un juge qui voulait tester la véracité de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les juges connaissaient les traits qui attestent de la véracité de la prophétie. Et parmi ces traits, c'est qu'il n'agit que comme il se doit. Il ne parle que quand il doit parler. Il ne riposte que lorsqu'il doit riposter. Et il a voulu tester cela. Il a fait un peu pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un délai, il est venu avant le délai, et il a adressé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même bien ça, il revendiquait son droit, même s'il n'a pas respecté le délai, le prophète n'a pas fait comme si nous aurions fait si nous avions été à sa place. Est-ce que c'est comme ça qu'on est si convaincu, convaincu à tout moi le temps et tout? Non, c'est pas comme ça que le prophète s'est comporté. Il est resté tranquille. Il a attendu qu'il se décharge. Omar s'est passé, il s'est levé, il a dit: calme-toi, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. J'avais besoin que tu me recommandes de lui remettre son droit. Est-ce que tu lui recommandes d'être, de respecter l'engagement? C'est tout ce dont nous avons besoin.
Voilà pour les hal.
Quand est-ce qu'on atteint ce degré d'élévation d'âme? C'est lorsqu'on met en pratique l'intention de vie. Cet enseignement prophétique. Allah nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique.
Ça y est.
On parlait des piliers de corps du salut. On dit, il faut être la personne concernée. Il faut être celui qui doit parler pour parler. Il y a si chaque fois, quand tu veux parler, rassure-toi que tu es celui qui devrait parler. C'est la première chose. Deuxièmement, rassure-toi que c'est le moment opportun. Et que tu es en train de parler à l'endroit où tu devrais parler. Et troisièmement, c'est la force. C'est comment parler. Parce que à chaque moment, à chaque endroit, un discours approprié. On ne parle pas aux dirigeants comme on parle à celui qui n'est pas dirigeant. On ne parle pas aux parents comme on parle à celui qui n'est pas un parent. Tout ça, ça entre dans le code, c'est-à-dire. Et après, tu peux parler à ton père sans jamais l'insulter, mais sans jamais faire partie dans ton discours avec ton père de ceux qui utilisent Paul, c'est dit. Parce que tu parles à ton père comme tu parles à n'importe qui, à sa femme. Il faut mettre cette chose à sa place. Parce que tu parles à une vieille personne comme si tu parlais à un enfant. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يوجد الزمان الى ادله ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ne fait pas partie de ma communauté de nous ceux qui ne respectent pas les vieillards et qui ne se montrent pas indulgents miséricordieux envers les petits. C'est ainsi quand tu parles à quelqu'un qui est vieille, vieux. Tu dois utiliser le discours approprié. Quand tu parles à un enfant, tu dois utiliser. Tu ne dois pas parler à un enfant comme si tu parlais à une grande personne. Son discours doit être le discours que tu utilises pour parler à un enfant, doit être un discours bâti sur la miséricorde. Parce que c'est ce dont il a le plus besoin. C'est que tu sois miséricordieux envers lui, même ton propre enfant. Et quand tu parles à une vieille personne, ça doit être un discours bâti sur le respect. Regardez la beauté de l'islam. Et regardez la mocheté de notre situation. Parce que nous avons abandonné ces enseignements. Qu'Allah nous oblige et qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Ça, c'est la deuxième chose. Conserver la langue. La troisième chose que je vais évoquer, parce qu'on ne peut pas citer tout. Les actes qui annulent l'acte, ou alors qui empêchent de bénéficier des actes d'adoration, des bénéfices amassés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Mais ce que j'ai fait là, c'est des isharat. Et après, le reste, c'est à travers d'autres coups qu'on va bénéficier, parce qu'on ne peut pas parler de tout ça dans une assise. Mais je veux quand même évoquer le troisième point, qui me semble être important, parce que beaucoup de gens négligent ce troisième point. La troisième chose qu'il faut éviter et qu'il est un dévastateur pour ce qui est des actes d'adoration, c'est, consommer l'illicite. C'est consommer l'illicite. Et on va commencer par le premier degré qui arrive à la consommation de l'usure. قال الله تعالى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله سبحانه وتعالى l'intérêt usuraire, là il y a pour nous, ils ne célébreront le jour de la résurrection qu'une personne qui a été touchée par le diable. Il y a le jour de la résurrection, ces personnes, dans leur situation, seront reconnues.
Parce qu'ils se lèveront comme une personne qui a été touchée par le diable. Vous le versez par le diable. Qu'Allah n'y a pas de chier par le diable. Allah dit ذَلِكَ فِيهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا فِيهِ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. Parce que ceux-là disaient que c'est un réunis, c'est comme le commerce, non, c'est pas ce qu'ils disent, ceux qui consomment les jus. Je pense qu'il a entendu, non, chef. Il a accepté. Ils disent que c'est comme le commerce. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu difficile le commerce et a interdit les jus. Mais, le dalil que la riba décide, exactement, c'est quoi? C'est un affaire de Aïcha radiallahu anha qui est dans Sunan al-Kubra de Bayhaqi. Et c'est un affaire rapporté à l'Aliya, rahimahallah. Qalat, kuntu qa'idatan, inda ummin mu'minina Aïcha radiallahu anha, fa'atatha ummu habibatin. فقالت يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم قال نعم قال كانت لي جارية كانت لي جارية فبئتها له إلى عطائه بثمانية مسيئة حتى إذا أراد أن يبيعها اشتريتها منه بستمائة نسيئة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وإذا لقيت زيد بن الأرقم فأخبره أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوب. من قال هذا الكلام؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها لا تبطل أعمال المسلمين من عند أنفسها، فهذا الحكم له حكم الرفع كما يقول العلماء. عائشة رضي الله عنها نسقطت في لجان شكوبيق عليه la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'effet de ses passions. Surtout quand elle sortait, elle parlait de ses genres de jugement. Ça veut dire que c'est un jugement soit qu'elle a compris du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit qu'elle a compris le texte de la révélation. Donc, dans le hadith, Ali radiallahu anha dit qu'elle était assise chez Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants. Umm Habiba est arrivée. Il lui a dit, oh mère des croyants, connais-tu Zayd ibn Arqam? C'est comme tu disais, est-ce que tu te rappelles de Zayd ibn Arqam? Parce que c'était un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon connu parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Umm Habiba pose la question à Aïcha radiallahu anha, elle informe Aïcha parce que c'est comme si au fond d'elle, elle n'était pas accusée, c'est comme si elle avait ressenti quelque chose. Mais ce qui faisait problème, c'est que ça s'est passé entre elle et un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dit, est-ce que tu te rappelles, oh mais des croyantes, de Zayd ibn Arqam? Dit, oui, je connais Zayd ibn Arqam. Il dit, ok. J'avais une servante et je l'ai vendue à Zayd ibn Arqam à 8000. Et quand il fait des 8000, il fait déjà à la monnaie qu'ils utilisent, qu'ils utilisaient à ce moment. Il dit, j'avais vendu à 8000. Mais seulement qu'il devait me remettre plus tard. Donc c'était une dette. Il lui a vendu, il allait rembourser la dette plus tard. Écoutez bien. Et cette même servante, lorsque je l'ai vendu, il a voulu revendre la servante et je l'ai racheté. À 6000 que je lui ai donné, cash. Qu'est-ce que vous avez compris de cette transaction? Yanni, j'ai un téléphone. Je viens voir Mohamed. Mohamed. Est-ce que tu peux acheter ce téléphone à 15 000 que tu me remettras dans un mois?
Mohamed dit, je suis d'accord. Il m'achète des éléphants, on conclut. Il dit, ok, je te le vends à 5 000. Cash. Je sors 5 000, je lis, donc je reprends le téléphone. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait? Non? En réalité, il a coûté 5 000 pour rembourser 15 000. Je ne sais pas si on a compris. En réalité, la vérité, au fond, c'est qu'il a pris, j'ai prêté 5 000 pour rembourser 15 000. هذا يسمى عند العلماء بيع العينة. C'est le dans le livre des faits, vous allez voir بيع العينة. C'est une forme parmi les formes de l'usure. Ce qu'on a voulu l'habiller. Non, c'est une forme parmi les formes de l'usure qu'on a voulu habiller comme si c'était le commerce, alors qu'en réalité, au fond, c'est l'usure. Oui. Maintenant, Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, comme tous les compagnons, ne détenait pas toute la science religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَفَوْكَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Il y a au-dessus de chaque savant quelqu'un de plus savant que lui. Donc même les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des détails qui les échappaient. Donc quand Zayd ibn Arqam, il a dit ça, lui la critique n'y avait rien. Et que maintenant qu'il y a un truc qu'on échange, peu importe le résultat. Et surtout que lui n'avait pas l'intention de faire l'usure. Mais la vérité, c'est qu'ils ont fait l'usure. Et ça, ça justifie ce qu'on a toujours dit. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne intention, qu'on n'a pas l'intention de faire du mal, que ce qu'on a fait qui est le mal devient le bien. Les gens n'ont pas compris la mal à mal de niya. Ils pensent que la niya, la bonne intention, transforme ce qui est mauvais en bonne action. Alors que c'est faux. Regardez, Zayd ibn Arqam n'avait pas l'intention de faire des juifs. On ne peut pas imaginer ça des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On sait que ce sont ces croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié comme étant ceux-là qui, lorsqu'ils comprennent la parole d'Allah, leur réaction c'est Samina wa Ata'na. Nous l'avons écouté, nous suivons. C'est comme ça que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement certains détails pouvaient les échapper. Yani Afrat, ça ne pouvait pas échapper tous les compagnons, mais il y en avait qui connaissaient plus que d'autres parmi les compagnons. Comme Aïcha connaissait cette question, maîtrisait cette question, puis que Zayd ibn Arqam. Donc, quand Umm Habiba radiallahu anha a expliqué ce qui s'est passé à Aïcha radiallahu anha, la main des croyants, il a dit, comme elle est mauvaise ce que tu as vendu, comme elle est mauvaise ce que tu as acheté. Yani, comme elle est mauvaise la transaction que vous avez faite. Ensuite il a dit, et si tu rencontres Zayd ibn Arqam, dis-lui qu'il a rendu vaine sa lutte sur le sentier d'Allah avec le prophète à travers cet aspect jusqu'à ce qu'il se repente. Et ça, ça nous montre la gravité de la consommation de l'intérêt usuraire, particulièrement, et le danger des biens illicites en général. Ça y est, pour la consommation de l'intérêt usuraire en pratique, voilà le dalil. Maintenant, quel est le dalil sur la consommation des biens illicites en général? C'est le hadith de Mouflis. Rappelez-vous que dans la suite du hadith, le prophète dit « Wa'akala mala » Hada. Il avait consommé le bien d'un tel. Donc ça fait partie des choses qui empêchent aux croyants de bénéficier des mérites de ces œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les juifs et la résurrection, la consommation de biens illicites. Surtout et surtout, quand c'est un bien qui appartient à autrui. Ya akhi wallahi, il est préférable. Je ne dis pas qu'il est difficile. Écoutez bien ce que j'ai dit. Parce que vous savez que parmi les maladies des musulmans aujourd'hui, c'est que les gens écoutent mal. Ils vont dire ce qu'on n'a pas dit. J'ai dit Dieu est préférable. Je n'ai pas dit qu'il est permis. Non, d'accepter de consommer l'argent de quelqu'un qui vend le porc. Quelqu'un qui vend le porc, l'argent du porc. que d'accepter le bien d'un vagina. Que d'accepter le bien d'un vagina, parce que c'est lui dans son bien. C'est l'agent de quelqu'un. C'est l'agent de quelqu'un. C'est pas leur bien. Ce sont les biens des autres qu'ils ont volés, directement ou indirectement. Parce que la vérité, c'est que c'est le vol. Ce qui compte, c'est le vol. C'est l'anac. L'anac, c'est une forme de vol. Voler, c'est pas seulement casser la maison. Si tu trompes quelqu'un, il prend son argent et te donne, tu es un voleur. Et tu peux, et ces personnes, du point de vue de la charia, sont qui sont les voleurs, qui vont casser la maison et pour voler. Parce que celui qui casse la maison pour voler, du point de vue de la charia, on doit couper sa main. Mais si les arnaqueurs font pas, entrent dans le registre des criminels. Al-Mustidoun Abdel Arab. Ceux qui propagent la corruption sur terre. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا مَاذَا إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ طيب جو بي la suite du verset, mais là, dans la traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la récompense de ceux qui combattent Allah, c'est ton prophète, et qui propage la corruption sur terre, c'est qu'ils soient tués, crucifiés, que leurs mains soient coupées inversement avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'on coupe la main droite, on coupe le pied gauche. Et ceux qui ont le degré le plus bas, c'est qu'on doit les sortir du pays. Comprenez? C'est-à-dire quand on attrape, islamiquement, si on attrape un vagina, qui n'a causé aucun tort, qui n'a volé qu'un peu, du point de vue islamique, le moindre mal qu'on peut lui faire, la moindre prière, la punition, la plus basse. C'est quand le point qu'on le met dans un avion là où ça a tiré, on ne sait même pas où. À partir du moment où c'est au du Cameroun, le jet là-bas, on revient. Parce que c'est quelque chose qu'on doit arrêter du point de vue islamique. Parce que si on arrête, ça va détruire le monde. C'est ça la vérité. Alhamdulillah, sallallahu sallam, ala malla nabiya ba'ad. Juste, on finit avec le verset. Qala Allahu ta'ala, innama yuza'u alladhina yusharifuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu, ou yusallabu, ou tuqatta'a aydihim, ou arjulahum, ou arjulahum min khilafim, ou yunfu min al-ard. Zalika lahum khizyun fi dunya, wa lahum fi al-akhirati azabun azim. Dans la tradition rapprochée, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, comment est-ce qu'ils le font? Et qui s'efforce de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ça, c'est la punition la plus basse quand on a mis la main sur un corrupteur. Quelqu'un qui veut répandre la corruption sur terre. Et à l'unanimité des savants, ce qu'on appelle l'arnaque, les Zadinadas, qui font partie de ces derniers, ils rentrent dans ce verset. Parce que c'est une chose qu'on ne doit pas voir grandir dans une société. Il n'y a qu'à méditer. Imaginez-vous ce que sera cette société après 10 ans. Si on ne trouve pas les moyens d'arrêter ces jeunes qui font l'ANAC. Parce que ce qui est sûr, quand ils vont finir de l'anarcher dehors, ils vont nous anarcher à l'intérieur. Et quand ils ne vont plus pouvoir nous anarcher, ils vont nous tuer pour accéder à nos biens. C'est pour ça que nous devons combattre ça avec la dernière énergie. C'est l'obligation de tout un croyant de combattre ces gens. رأى منكم منكر فليغيره بيده. Celui qui peut les combattre avec la main. Tant que cela n'engendre un mal plus élevé que cela, qu'il le fasse. Et s'il ne peut le faire, parce qu'on peut, on peut pouvoir le faire, mais si cela implique ou alors engendre des maux plus graves que ce mal qu'on a voulu combattre, on doit s'abstenir de le faire avec la main, mais on doit le combattre avec la bouche. J'ai on doit les trahir. Quand on sait qu'ils sont en train de planifier quelque chose, c'est-à-dire que si tu es un fréquier et Zagina, tu le vois appeler un numéro, si tu tombes sur ce numéro, Wallah, il prend le numéro, appelle la personne, dit c'est l'ana. Et si tu ne le fais pas, tu seras interrogé le jour de la résurrection, tu seras châtié par Allah, si tu as la possibilité de le faire. Que chacun fasse ce qu'il fait, parce qu'on doit arrêter ce fléau. Et si vous avez des autorités sur lieu quelque part, dénoncez-les. C'est ce qu'on doit faire. Et les autorités doivent prendre confiance. Parce qu'on doit mettre personne à ce fléau.
Alors, si vous avez Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'était pour que l'ignominie ici-bas, et dans l'âme, et dans l'au-delà, il y aura pour eux énorme châtiment. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme d'habitude, Allah subhanahu wa ta'ala ne ferme jamais la porte de la miséricorde à celui qui veut bénéficier de sa miséricorde. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Excepté ceux qui se repentent avant de tomber en votre pouvoir. C'est-à-dire que si on recherche un vagina, si on veut frapper un vagina pour ce qu'il a fait, et lorsqu'on l'attrape, on se rend compte qu'il s'est repenti à remis le bien de la personne qui l'a arnaqué. Et il est en train de pleurer, Allah te le calme le pardon, on se doit de le laisser. Non? Non. C'est possible, il y en a qui se répondent. C'est difficile, mais c'est possible. Comme il a fait pour prendre, s'il a pu prendre le bien, il peut remettre. C'est sûr. Et subhanallah. En réalité, quand on médite sur l'action de l'arnaqueur, on se rend compte que c'est un perdant qui n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, tout le bien qu'il travaille, et même si après sa mort, des personnes héritent de ces biens, ce ne sont pas les biens jusqu'au jour de la résurrection, ce sont les biens de celui qu'ils avaient arnaqué, même pour, même s'ils ont fait tourner ces biens. Ça veut dire que si un Zagina frappe quelqu'un, tourne cet argent, il frappe par exemple 1 million, et que dans 10 ans, il a 100 millions, et décide de se repentir, il doit remettre sur les 100 millions à celui qu'il avait, de qui il avait frappé 1 million. Parce que c'est son argent. Tout ce que l'argent a produit, c'est l'argent du premier propriétaire. C'est pour ça que dans le hadith, des 3 personnes qui avaient travaillé chez quelqu'un et l'un d'eux avait laissé sa bête qui était son salaire. Donc, il est revenu des années après, celui-là avait. Non, il avait entretenu cette bête et ça avait produit beaucoup de bêtes. Et à partir de ces bêtes, il avait créé d'autres pâturages et d'autres troupeaux. Il y avait des bœufs. À partir d'une chèvre, il a acheté des bœufs, des chameaux, des ânes. Et lorsque la personne est revenue, il lui a dit, paye-moi mon salaire. Il a dit, tout ce que tu vois là, c'est ton salaire. Et regardez comment Allah avait éprouvé cette personne qui était une personne pieuse. Il lui a dit, tout ce que tu vois là, c'est ton salaire. Il a dit, j'espère que tu n'es pas en train de t'amuser avec moi. Il a dit, c'est ton salaire. Il dit, dans ce cas, je vais prendre mon salaire. Il a pris, même sans lui dire merci. Et il est parti. Et la personne n'a rien éprouvé. C'est ça la foi. Quand on a atteint ce degré d'élévation d'âme. Parce qu'il savait, pour lui, il n'était pas en train d'entretenir son argent. Il entretenait le bien d'un croyant qui avait laissé ce qui revenait des droits de quelqu'un. Et quand la personne l'a récupéré, ce n'était pas un problème. Même sans lui laisser une chèvre. Et il a cédé à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire que comporter de cette manière. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a validé son attitude. Donc ça veut dire que ce qu'il a rendu à l'autre, c'est son bien. Ça, c'est quelqu'un qui a laissé son salaire. Qu'en est-il de celui
qui a volé quelqu'un et qui a multiplié ses biens. Ça veut dire qu'il peut lui remettre ses biens et payer même l'indemnisation. Non, parce qu'il a volé. Wallahu musta'an, qu'Allah nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Haba wallahu ala wa alam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.